Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va si vous voulez, on va essayer de réfléchir sur ce thème. Et il y a des éléments dont on a besoin, qu'on a déjà vu dans plusieurs cours, mais étant donné qu'il y a des têtes nouvelles aussi, donc c'est pas grave si vous voulez réécouter, parce que ce sont des choses qu'il faut travailler pour bien les absorber. D'ailleurs, moi-même, j'assiste à tous mes cours et je ne veux pas s'y croire. Pardon. Alors. Donc, il y a cette notion très importante qu'en réalité, on parle de la place qu'on laisse à l'enfant, de la place qu'on donne à l'enfant. On a expliqué déjà, mais c'est une chose sur laquelle il faut bien comprendre. Quand on parle du makom, l'espace qu'on donne, le lieu qu'on donne pour quelque chose. Donc ici, on va voir que c'est par rapport à l'enfant, mais qu'est-ce que c'est le principe en soi de l'espace qui est donné à quelque chose, qui est consacré à quelque chose? On a expliqué déjà, quand on parle de makom, ça veut dire le lieu. Maintenant, c'est difficile parce que le mot lui-même, il prend plusieurs connotations. Alors, quand on parle de l'endroit, normalement, quand on parle d'un espace, par exemple ici, comment on définit l'espace de la synagogue? Parce que c'est limité par les murs. Il y a un plafond, il y a un parterre, c'est un espace qui est délimité. Maintenant, cet espace-là, il s'appelle makom, c'est le makom de la synagogue. Après, il y a un makom, il y a un espace qui est un espace intellectuel. Par exemple, votre écoute, votre concentration, c'est l'espace que vous créez pour que mon idée, elle rentre chez vous. Donc maintenant, quand vous ouvrez vos oreilles, alors la parole, elle peut passer. C'est l'espace que vous créez en vous, l'espace de tolérance, l'espace d'ouverture, l'espace d'écoute. Alors ça crée un espace pour que la parole de l'autre, elle existe. Alors il y a un espace aussi psychologique, l'espace que je crée en moi pour que l'autre existe. C'est-à-dire que je suis obligé de creuser dans mon égoïsme et de creuser dans mon orgueil pour laisser une place à l'autre. Si je ne le fais pas, l'autre n'existe pas. Ouais, on appelle Gassé à Roi, celui qui est orgueilleux, parce que Akjboku, il dit « Ama Akjboku, en adive ou yekholim la dour ba'olam » Lui et moi, on ne peut pas exister dans le monde. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux prend toute la place. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en vérité, l'énergie de vie, comme on a expliqué plusieurs fois, l'énergie de vie, elle vient de l'Eshama. Donc cette énergie, elle est infinie. Maintenant, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas contrôlée, alors elle se développe à l'infini. Celui qui est orgueilleux, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Celui qui croit qu'il est beau, il est plus beau que tout le monde. Celui qui est intelligent, il est plus intelligent que tout le monde. Pourquoi? Parce que cette énergie à l'intérieur, si elle n'est pas jugulée, elle n'est pas contrôlée, elle se développe à l'infini, comme un gaz qui s'étend. Il dit, mais cette dimension-là, l'espace qu'on donne pour que l'autre existe, parce que maintenant j'ai compris que si j'existe moi, et que j'ai l'impression que l'autre, en existant, il m'empêche d'exister, alors qu'est-ce que je fais? Je dois prendre sur moi, je dois créer un espace en moi pour que l'autre existe. La bonté aussi, c'est pareil. La bonté, c'est l'espace que je crée. Pourquoi? Parce que quand je donne à quelqu'un, il y a un double acte. Il y a ce que je donne à l'autre, et il y a ce que je prends de moi. Maintenant, je prends de moi pour donner à l'autre. Maintenant, qu'est-ce que l'autre reçoit? Ce que j'ai pris de moi ou ce que je lui ai donné?
Ce
que je prends de moi, c'est-à-dire l'effort que j'ai fourni moi, sur moi, c'est ça que l'autre lui reçoit. Oui. Parce qu'en vérité, si vous regardez, les cadeaux sont inutiles. Maintenant, je t'ai offert une veste, je t'ai offert un stylo, je t'ai offert une cravate. Oui, chaque fois on offre des cravates au mari. On dirait qu'ils doivent aller se faire pendre. On verra les cas particuliers après, si vous voulez. Donc c'est quoi l'idée? Bonsoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en vérité, je donne un truc. Maintenant, l'objet en lui-même, il n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est l'effort que tu as fourni pour moi, parce que tu as consacré du temps, de l'énergie, tu as pris de ta vie pour moi. C'est cet espace que tu as créé en toi pour que moi j'existe. Maintenant, pour qu'il y ait de la place de moi dans toi, il fallait qu'il y ait un peu moins de moi. Donc ça demande un sacrifice, un effort. Et ça, c'est quoi, hein? C'est ce que je prends de moi. De la même manière, le makom, c'est aussi Eretz Israël, parce que c'est l'endroit du peuple d'Israël. Alors, le makom, c'est aussi Jérusalem, parce que un makom a chérifra Hachem, l'endroit que Dieu a choisi. Alors maintenant, dis-leur à Moshe Shapira, c'est quoi le point commun entre ces différentes notions de makom? Parce qu'on a dit makom, l'espace physique, l'espace intellectuel, l'espace émotionnel, l'espace spirituel. C'est quoi le lien? Alors, le mot makom, en hébreu, il veut dire endroit. Mais le mot makom, il vient du mot mekayem. Mekayem, c'est ce qui rend possible. Donc, le makom, c'est ce qui rend possible. Maintenant, le lieu géographique, il rend possible le bâtiment. Le lieu intellectuel, il rend possible la compréhension. C'est pour ça que quand je comprends quelque chose, c'est parce que j'ai créé un espace de tolérance dans ma tête. C'est pour ça qu'en français, on dit, il n'y a pas lieu de penser. Il n'y a pas lieu de penser, il n'y a pas un espace qui a été créé pour cette pensée. Alors ça ne rentre pas dans ta tête. Si je veux que quelqu'un m'écoute, il faut d'abord que je l'intéresse. Parce que si je ne lui donne pas envie d'écouter, il n'entendra pas. Alors en français, on dit, les gens qui s'entendent sont des gens qui s'écoutent. Quand les gens disent, ah vous savez, on s'entend très bien. C'est quoi on s'entend très bien? C'est quoi les gens ne s'entendent pas? Quand les gens disent, on s'entend pas. C'est vrai, ils ne s'entendent pas. Moi je vois les gens, un couple, des fois ils te racontent un problème, d'accord? Alors, quand la femme, elle te raconte la version, après le mari te raconte la version, excusez-moi, est-ce que vous vivez dans la même maison? Maintenant, ils ne sont pas méchants, mais un, il est convaincu que ça s'est passé comme ça, et l'autre, il est convaincu que ça s'est comme ça. Quand il dit, ils ne s'entendent pas, vraiment, ils ne s'entendent pas. Là, je suis rentré d'Israël, il y a une femme qui m'a appelé à l'aéroport. Moi, j'étais en train de marcher dans le petit prix. Ouais, alors après, j'ai dit, passez-moi votre mari. Alors, elle me passe son mari, moi, je parle avec le mari. Maintenant, lui, il a décidé de donner le guet. J'ai dit, d'accord, on va divorcer. Mais au moins que vous sachiez avec qui vous divorcez, parce que vous ne savez même pas qui vous êtes marié. Donc, on a parlé. Et je lui ai expliqué un petit peu, je voyais, il ne comprenait pas, j'ai répété deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, il ne comprenait pas. J'ai dit, écoutez, je suis pédagogue, vous ne comprenez pas, alors est-ce que vous comprenez votre femme? C'est que les gens ne comprennent même pas, je sais pas si vous... Ils sont dans un autre monde, ouais, parce que ça prend un effort de bien écouter quelqu'un, et ça prend de prendre une place chez soi, pour que l'autre y rentre. Si je ne le fais pas, ça ne rentre pas. La personne, elle refuse l'autre, elle refuse. Donc c'est un espace émotionnel. Comme il y a un espace intellectuel de modestie, ouais, quand on veut apprendre la Torah, par exemple, il y a une grande mitzvah, c'est de la fermer. Mais c'est dans tous les domaines. Même quand tu es un élève en mathématiques, il faut te taire pour que le professeur y parle. Si tu dis, je ne suis pas d'accord, qu'est-ce que vous dites que c'est pas évident, je ne suis pas d'accord, mais tu ne sais même pas de quoi je parle. D'abord, tu te tais, tu écoutes, après tu discutes. Parce que sinon, on ne parle même pas de la même chose. Comme j'ai dit souvent, pour être d'accord, pour ne pas être d'accord, il faut pouvoir être d'accord. Donc quand les gens disent « je ne suis pas d'accord », mais tu n'es pas d'accord avec qui? Je ne suis pas d'accord avec toi. Alors explique-moi ce que je dis. Mais j'en sais rien, ce que tu as dit, ça ne m'intéresse pas. Alors avec qui tu n'es pas d'accord? Parce que tu ne veux pas ce que je dis. Il faut réussir normalement à développer son argumentaire. Après, il faut réussir à développer l'argumentaire de l'autre. Et quand je peux argumenter dans le sens de l'autre, alors à ce moment-là, ça veut dire que je peux superposer les deux spectres intellectuels. Et là, je peux peut-être me poser la question « qui est-ce qui a raison ?» Mais si je ne sais même pas ce que tu penses, et toi tu ne sais même pas ce que je pense, alors que je pose ça. Et cette dimension-là, elle ne viendra qu'avec l'espace. Parce que j'ai créé un espace d'écoute. Et là, j'ai créé un espace intellectuel. Maintenant, cet espace, c'est ce qui est mécanique, c'est ce qui rend possible. C'est ce qui rend possible la chose. Ça rend possible la discussion. Maintenant, nous, on va essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire de créer un espace pour l'enfant. Encore une fois, c'est pas, on a compris, c'est pas seulement un espace physique. Parce que ça ne sert à rien que l'enfant, tu lui as créé une chambre. Sinon ta tête, tu n'as pas fait de place. Et si tu n'as pas fait de place dans ton cœur, et si tu n'as pas fait de place dans ta patience, et si tu n'as pas fait de place dans ta disponibilité, alors à quoi ça sert de lui faire une chambre? Peut-être quand il sera déprimé comme ça, il sait où aller. Ouais. Cette logique-là, c'est quoi? Donc c'est, on a dit que le makor, c'est cet espace que je crée, et surtout, maintenant vous avez compris, c'est un espace qui est dynamique. Parce que mekayem, c'est ce qui rend possible. C'est Amé Archer Aviato Sheldava. C'est ce qui rend possible l'existence d'une chose. Et ça, c'est une dimension qui est dynamique. À chaque instant, de le créer. Maintenant, si c'est ça, ça veut dire que même dans la réalité du présent, je crée le futur. Comme à l'époque, je vous avais expliqué que la Emouna, c'est l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. J'ai un présent aujourd'hui. Qui a dit que j'aurai un futur? Alors, les jours, c'est comme des wagons. Il y a le wagon 1, le wagon 2, le wagon 3. Maintenant, tu es obligé de sacrifier un morceau du wagon 1 pour accrocher le wagon 2. Et tu es obligé de sacrifier un morceau du wagon 2 pour accrocher le wagon 3. Maintenant, l'espoir, la émouna que tu as, c'est quoi? C'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Maintenant, comment on appelle le lien entre le présent et le futur? On l'appelle la croyance. Alors, je dis, est-ce que tu crois au lendemain? Est-ce que tu crois en l'avenir? Est-ce que tu crois au bonheur? Il y a beaucoup de gens comme ça, ils souffrent, c'est difficile, j'ai trop souffert, j'en ai marre, j'en peux plus, je vais mourir. Alors j'ai dit, écoute, je voudrais bien connaître l'agent de marketing qui t'a convaincu que tu n'avais pas droit au bonheur. Parce qu'il est tellement convaincu, je voudrais savoir quel argument il a développé, quelle démarche il a suivi. T'es tellement convaincu que t'as pas droit au bonheur. Oui, chaque fois que tu essayes d'arranger, non, tu ne te rends pas compte, c'est trop facile, et j'arriverai jamais, de toute façon, oh, je suis bête, et j'ai trop souffert, et mon père il m'a fait ça, et ma mère elle m'a fait ça, et j'habite dans un pays comme ça, et l'argent c'est truc, et j'ai pas de chance, et j'ai pas de malheur. Mais tu sais qu'il a cloisonné son malheur. Maintenant, comme il a cloisonné son malheur, et qu'il le perpétue, donc il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Parce que la Emouna, c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour ton avenir. Comme le couple, encore une fois le couple, parce que le couple, c'est un laboratoire de vie. Donc les gens, ils viennent et ils disent, tu savais, ma femme, je dis, écoutez, vous parlez de la mère de vos enfants, là. Vous l'avez noirci, pourri. Alors il dit, bon, bah, oui, d'accord. Alors, je dis, pourquoi vous m'appelez? Il dit, ben, je vous appelle, les gens, je demande, est-ce que vous voulez construire? Est-ce que vous voulez? Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi faire? Ben, pour vous dire que ça va pas. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai compris le constat. Ouais, et qu'est-ce que vous voulez? Ce que tu veux, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu veux créer un espace. Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de quoi accrocher le lendemain? Ben, exactement pareil. Est-ce que ton enfant, il a une place dans ton avenir? Mais ça, ça s'appelle l'aïmouna, ça s'appelle aussi la tigva, ça s'appelle aussi l'espoir. C'est ça que je vous avais dit aussi à l'époque, que l'espoir, ouais, c'est un espace qu'il faut créer. On ne peut jamais désespérer. On n'a pas le droit de désespérer. Alors, comment je vais faire parce que je suis déçu? Oui. Alors, je vous avais dit cette phrase, mais je vois que, pour ceux qui prennent des notes, bien sûr, que tu ne vas retrouver l'espoir que quand tu vas te désespérer de ton désespoir. Quand tu vas te désespérer de ton désespoir, tu vas retrouver l'espoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'espoir, il vient de la neshama. Mais le désespoir, il vient du corps. C'est pour ça que les gens qui sont entièrement matérialistes sont toujours désespérés. Maintenant, ils espèrent que leur prochain matériel leur redonnera un nouvel espoir. Donc, ils ont l'espoir du matériel. Mais comme les matériels ne rassasient pas leur essence, donc ça crée le désespoir. Et ce qu'on avait dit, c'est une règle de grammaire, d'orthographe, un espoir au singulier, désespoir au pluriel. Vous vous rappelez de ça? Donc, comme Moshe, il révise. Ça veut dire quoi? C'est qu'un espoir, il doit être réalisé. Maintenant, si pour combler, on veut combler le manque qui a été créé par un espoir qui n'est pas réalisé, on amène un autre espoir, le cumul d'espoirs non réalisés crée le désespoir. Ça va? Maintenant, je donne un espoir à un enfant. Si je ne réalise pas cet espoir, je crée son désespoir. Je dirais, je vais l'expliquer, je vais le faire rêver, ça ne sert à rien si tu augmentes ton désespoir. Maintenant, même toi-même, quand tu te donnes de l'espoir, tu prends un engagement, tu dis, je vais faire ça. Si tu ne réalises pas même un minimum, alors tu vas créer le désespoir. C'est pour ça qu'on dit que l'ambition doit être énorme, mais il faut accepter que le résultat va se faire centimètre par centimètre. C'est une des bontés d'Hachem qu'il a donné le temps. Pourquoi les enfants mettent 20 ans pour avoir 20 ans? C'est long. C'est qu'un veau, par exemple, il sort du ventre de sa mère, 2 heures après, il marche. Il marche. Il sait tout de suite qu'il doit manger le lait de sa mère. Qui c'est qui l'a expliqué? Il sait. Il sait qu'il doit boire, il sait comment il se tenir debout. Lui, il sait. C'est un bébé, un veau. Un bébé, et ça prend du temps, beaucoup de temps, et beaucoup d'apprentissage. Et la première classe, la deuxième classe, la troisième classe, jusqu'au bac, et après les études, et les échecs, et les trucs. Ouf, c'est long, pourquoi c'est long? Parce que l'homme, c'est un animal complexe. Ou le veau, c'est un homme simple. On dit d'ailleurs, il a une tête de veau. D'accord. Donc c'est quoi la dimension? C'est que ça prend du temps. Maintenant, puisque ce qui prend du temps, c'est toujours nécessaire dans les deux sens, donc c'est nécessaire que l'enfant prenne du temps pour mûrir, c'est aussi nécessaire de laisser le temps aux parents de mûrir. Je ne sais pas si vous... Ça prend du temps pour les parents de devenir parents. Donc le temps que l'enfant grandit, c'est le temps qu'on donne aux parents pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire, pour évoluer dans ce qu'ils font. Donc de la même manière, quand la personne, elle donne de l'espoir, elle-même, elle se donne un espoir. Maintenant, un enfant, il grandit. Donc un enfant de 8 ans, il aura 9 ans. Un 9 ans, il aura 10 ans, 11 ans, 13 ans, 15 ans. Maintenant, est-ce que toi, tu as de l'espace pour cet enfant de 15 ans, alors qu'il t'a déçu à 8 ans? Donc tu dois créer l'espace à 8 ans pour 9 ans. Tu dois créer l'espace à 9 ans pour 10 ans. Tu dois aller créer l'espace à 12 ans pour 13 ans. À 16 ans pour 17 ans. On fait que ça. On crée un espace. Mais là, c'est quoi? C'est un espace moral. C'est que toi, tu es obligé de garantir ton capital moral pour arriver à donner à l'enfant ce qu'il aura besoin comme avenir. Maintenant, si toi, tu te dégoûtes, si toi, tu t'énerves, si toi, tu t'écœures, eh bien, il n'y a plus d'espace. Et comme il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espoir. Et comme il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lendemain. Ça va? Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est mécanique, c'est ce qui rend possible. Donc quand je veux créer un espace pour l'enfant, il faut que je le crée dans ma tête. Ah, maintenant l'espace géographique, c'est qu'une image. C'est comme des repères. C'est comme quand vous regardez le bureau de l'ordinateur, Windows. D'accord? Alors là, il y a l'onglet imprimante, et là, il y a l'onglet. Mais c'est des repères, c'est pas une imprimante. Maintenant, quand vous déplacez la souris, vous cliquez dessus, ça met en marche l'imprimante. Et bien, la réalité, c'est pareil, c'est une fenêtre de Windows. Les événements sont des onglets. Alors, quand on clique sur un onglet, il y a un phénomène qui fait que le phénomène se met en marche. On a besoin de repères. Donc, quand tu as un espace, par exemple, tu rentres chez toi, tu te sens bien. C'est chez toi. Alors, pourquoi tu te sens bien quand tu rentres chez toi? Ben, parce que c'est fermé, parce qu'il y a le chauffage. Non, parce que c'est chez toi. Ça va? Donc, les gens qui ne créent pas leur chez-soi, qui ne donnent pas leur place à leur femme, à leur mari, à leurs enfants, qui ne s'habituent pas, qui ne décorent pas la maison, qui ne prennent pas du goût dans cette maison, qui ne kiffent pas dans cette maison, ils ne sont pas bien chez eux. Ils sont tout le temps en train de voyager, en train de truquer, en train de courir, en train de fuir, en train de traîner dans la rue, en train d'être au café, en train... Pourquoi? Ils ne sont pas chez eux. Pourquoi ils ne sont pas chez eux? Parce que le chez-soi, il faut le fabriquer. Tu le fabriques. Oui, c'est toi qui l'as créé. Mais non, ah, tu dis, mais non, mais ça n'a rien à voir. J'habite aux 35 rues de trucs. Mais non, ça c'est rien, c'est un repère. C'est un repère virtuel comme sur Windows. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Tu veux qu'il y ait de la Torah dans la maison? Faut la mettre. Tu veux de la sérénité dans la maison? Ah, mais c'est pas à moi, elle m'énerve, j'en ai marre, j'écris. Des fois, tu rentres dans une maison, tu sens les nerfs. T'as jamais vu ça? Il y a une atmosphère de nerfs. Tu rentres dans une maison, il y a une atmosphère de dépression. Attends, la baraque, elle est de folie, on dirait un catalogue. Mais tu rentres. T'as envie de mourir, tu dis, tiens, il faut que je meure. Comprenons. Il y a des maisons, tu sens la Torah. Dès que tu rentres, il y a de la Torah. Tu dis, tiens, j'ai envie de... Et Rav, il avait dit ça, il a dit, comment on reconnaît une yeshiva? C'est si tu rentres dans la yeshiva, t'as envie d'étudier. Si t'as pas envie d'étudier, c'est pas une yeshiva, c'est une université, un bowling. C'est pas une yeshiva. Tu dis, mais il y a des sparring, il y a tout. Non, ça c'est rien, ça, c'est des repères. C'est des repères. Ouais. Comme quand tu rentres dans un restaurant, par exemple, et que le restaurateur, c'est lui qui cuisine et il aime faire à manger aux gens. Et bien quand tu rentres, t'as envie de manger. Parce que dans cet espace, il a créé l'atmosphère. Oui ou non? Dans cet espace, il a créé l'atmosphère. Donc l'important, c'est quoi? C'est ce que tu crées à l'intérieur de l'espace. C'est pas l'espace en lui-même. Maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des cadres. Ils font un cadre maison, un cadre travail, un cadre vacances. Ils font des cadres. Alors ils te le posent, ils te disent, alors, comment tu trouves le cadre? Tu dis, je peux pas l'encadrer. D'accord? Mais non, le cadre, ça sert à rien. C'est comme si un type, tu vas dans une disposition de peinture, tu vois un tableau tout blanc. Ouais, et tu regardes le prix, 788 000 euros. Tu dis, mais c'est 788 000? Il dit, mais enfin, il représente quoi ce tableau? Il ne représente rien. Ah bon? Il dit, mais enfin, c'est quoi? C'est l'éclat du soleil? Là, il est blanc. C'est la banquise. Une face enneigée du Mont Blanc. Non, monsieur, le tableau est neuf. Il n'a pas été peint. Alors, c'est quoi qui coûte 780 000 euros? Il dit, mais c'est le cadre. Je sais pas si c'est au-dessus. C'est le cadre. Mais il n'y a rien dans le tableau. Il y a des gens comme ça. Tu vois un cadre familial. Monsieur, madame et les enfants. Tu vois. C'est une famille. Ah bon? Tu parles un peu? Le père, tu parles avec la mère. Les deux, ils parlent avec les enfants ils parlent encore entre eux, il n'y a que le cadre. Dans le tableau, il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il faut le créer, ça. C'est un travail de le faire. C'est un travail. Tu lui racontes des histoires, tu prends du temps avec lui, tu passes du temps à table, tu passes du temps pour l'aimer, pour l'engueuler, pour lui expliquer, tu réfléchis. Mais quand tu réfléchis à l'enfant, ça fait partie de son cadre. Parce que, Veshinantam Levanecha, c'est quoi? C'est que un des rabbis de Lubavitch, il a dit, Veshinantam Levanecha, tu enseigneras à tes enfants. Il dit, c'est quoi? C'est une mitzvah de réfléchir chaque jour à l'éducation de ses enfants. Comment je vais faire avec celui-là? Comment je vais faire? Mais non, c'est pas tellement parce qu'aujourd'hui tu vas trouver une solution. Non, c'est parce que tu l'as rentré dans ta schédule, tu l'as rentré dans ton emploi du temps. Il est dans ta vie. Si tu dis, ah mais moi c'est quand je suis convoqué à l'école, sinon je me rappelle même pas que j'ai un enfant. Tu sais, mais en quelle classe il est? Qu'est-ce qu'il étudie en ce moment? Est-ce qu'il est bien en mathématiques? Je sais pas, c'est je cours. Je dis, bah, il faut que tu calcules dans quelle proportion il est ton fils. Parce qu'il n'a pas de place chez toi. Maintenant, le problème, c'est que la psychologie, c'est comme les mathématiques. Vous savez que 4 fois 3, ça fait combien 4 fois 3 ? 12. Et bien, 3 fois 4, ça fait 12. C'est extraordinaire, non ? 4 fois 3, 12. 3 fois 4, 12. 5 fois 6, 30. 6 fois 5, 30. D'accord ? C'est bon ou non ? Donc, c'est quoi le rapport de mathématiques ? C'est ce qui démultiplie le potentiel. Donc, le père, c'est le 5. Et le 3, c'est le fils. 5 fois 3, 15. 3 fois 5, 15. La place qui existe pour le, dans le père pour le fils, c'est la place qui existe pour le fils, dans le fils pour le père. Donc quand tu dis, mais mon enfant ne me considère pas, d'accord, mais est-ce que tu considères toi? Non. Tu dis, bah, c'est des mathématiques. 3 fois 5, 5 fois 3. C'est un reflet. Tu dis, mais je n'ai pas la tête, il n'a pas la tête. J'arrive pas à l'écouter, il n'arrive pas à t'écouter. Mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? Là, tu dis, mais pourquoi tu ne m'écoutes pas? C'est un miroir. Il me saoule ce gosse. Il me saoule mon père. C'est un miroir, t'as pas compris ça? De toute façon, il ne me comprend pas. De toute façon, je ne comprends pas. Bon, va lui parler. De toute façon, je ne comprends pas. Bon, toi, écoute-le. Mais de toute façon, il ne comprend pas. Regarde, c'est bizarre, non? C'est un miroir. Je te dis, c'est les mathématiques. C'est les mathématiques. Les gens, ils croient. Il y a ce qu'on appelle la philosophie des mathématiques. C'est comme pas de la soustraction. Tu as 10 moins 5. 10 moins 4, ça fait 6. En français, on appelle ça la différence. Parce que la confrontation de deux éléments va faire apparaître la différence. Donc quand toi tu soustrais, ouais, ce qui apparaît c'est la différence. Donc tu imposes ta différence, ce qui ressort c'est la différence. C'est la philosophie de la soustraction. Comme il y a la philosophie de la multiplication. Comme il y a la philosophie de la division. Donc maintenant la multiplication, quoi, ça provoque. C'est que ça provoque la multiplication des choses. Donc toi en tant que père, il y a des éléments qui vont se développer chez ton fils. Et toi, en tant que fils, il y a des choses qui vont se développer chez ton père. Ça s'appelle les multiples. Parce que par exemple, 10, c'est des multiples de 2. Donc ton père, il contient des multiples de 2. Toi, tu contiens des multiples de 2. Donc c'est le point commun. Mais alors, qu'est-ce qu'on ne supporte pas chez l'autre, en fin de compte? C'est combien il nous ressemble. Ça veut dire que ce que tu ne supportes pas chez lui, c'est ce avec quoi tu as fait un compromis chez toi. Maintenant, chez toi, tu l'acceptes, mais chez l'autre, tu ne supportes pas. Mais un jour, tu vas comprendre que l'autre, c'est qu'un multiple. 24, c'est un multiple de 2. Et 84, c'est un multiple de 2. Donc l'enfant, c'est un multiple de toi. Et toi, c'est un multiple de lui. Maintenant, quand tu vas trouver chez toi le multiple de ton enfant, tu vas le comprendre.
Comment tu peux le travailler quand tu mets ton enfant?
Ah bah parce que tu dois te connaître à toi. Parce que puisque le monde entier, on l'a dit, c'est qu'une symbolique. D'accord? Donc même la génétique, c'est une symbolique. Quand tu vas avec une femme, avec ta femme, et il y a un bébé qui naît, alors tu vas voir le docteur, tu dis, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'aime beaucoup ma femme, nous avons eu des relations assez proches, et 9 mois après, elle a eu un bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as mis une graine, en elle, une semence, cette semence, elle a été fécondée, et hop, ça fait un bébé. Ça c'est quoi? C'est la démarche physique. Mais la démarche psychologique, c'est la même chose. Puisque la semence, c'est un extrait de toi. Et ta femme, c'est quoi? C'est le terrain qui l'accueille. D'accord? Donc ce que tu vas retrouver dans le résultat, ça sera automatiquement et de toi et d'elle. Ça va? Maintenant, quand toi tu rentres dans la réalité, en fin de compte, tu fécondes la réalité. Donc ton avenir, c'est le fruit de la fécondation de la réalité du présent. Tu dis, mais j'aime pas mon avenir. Mais c'est toi qui l'as mis enceinte. Donc celui qui va se connaître, il va se reconnaître chez sa femme, il va se reconnaître chez son mari, il va se reconnaître chez ses enfants. Donc celui qui refuse de se connaître, c'est la vie qui va l'obliger à se reconnaître. En fait, c'est pour ça que la joie, c'est une réconciliation, d'accord? Et l'angoisse, c'est toujours une fuite. Parce qu'en fin de compte, tu fuis ce qui revient vers toi, ce qui te rappelle qui tu es. Pour ça, je vous ai toujours dit, il n'y a pas de différence entre élever l'enfant qui est devant toi et élever l'enfant qui est en toi. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que l'enfant qui est devant toi, il t'oblige à régler des problèmes. Pourquoi? Parce que l'enfant, il a une qualité extraordinaire, il a des problèmes extraordinaires. L'enfant, il a un défaut extraordinaire, c'est qu'il ne comprend rien. Il comprend rien. Mais il a une qualité extraordinaire, c'est qu'il ressent tout. Donc, il n'arrive pas à conceptualiser ses sentiments. Il n'arrive pas à les traduire en mots. Mais ce qu'il ressent, c'est pur. Toi, tu développes des concepts, mais ta sensation, elle est faussée par tes intérêts. Donc lui, il ressent vrai, mais il pense faux, parce qu'il n'a pas élaboré sa réflexion. Toi, tu ressens faux, mais tu penses vrai. Alors comment quelqu'un il va garder sa spontanéité de départ? Ben c'est très simple. Soit il va tomber dans le piège de la routine et du tumulte, soit chaque jour, il va regarder comme un jour nouveau. Je n'ai pas la priori de la veille. Comme un jour nouveau. Je n'ai pas la priori de la veille. Ouais. Et ça, c'est quoi le principe? C'est le principe de l'écriture du Sefer Torah, et c'est le principe aussi de porter le Shabbat. C'est que le Shabbat, on n'a pas le droit de transporter d'un domaine privé à un domaine public. Vous voyez? On n'a pas le droit de porter Arba Amot dans le Shtarabim. C'est-à-dire, si je suis dans la rue et je trouve un objet par terre, si je le ramasse, je marche 2 mètres et je m'arrête ou je le pose, j'ai transgressé l'interdit de la Torah. Donc, si je suis chez moi, je suis dans un domaine privé, comme la synagogue ou quoi, c'est un endroit qui est entouré, et je prends une aiguille qui pèse un gramme et je le sors dehors, le fait d'être passé d'un domaine à un autre, ouais, ça s'appelle sortir, il est sur le Shabbat, j'ai transgressé le Shabbat. Alors, ça, cet interdit du Shabbat, il est placé le premier de la Gemara. Yitzhiot à Shabbat, ouais, Shtaim Shel Arba, c'est le premier enseignement de la loi Shabbat. Il demande des commentaires pourquoi? Il dit parce que c'est celui qui est le plus dur à comprendre. Parce que dans toutes les lois du Shabbat, il y a toujours une transformation. Shabbat, c'est interdit d'écrire, c'est interdit d'effacer, c'est interdit de peindre, c'est interdit de couper, c'est interdit de coudre, de tisser, de semer. Mais c'est toujours une transformation. T'as transformé, t'as construit, t'as créé, t'as développé. Vous voyez? Donc l'objet, il a changé. Ça, c'est interdit. Parce que Shabbat, on dit parce que nous, on fait Shabbat. Le septième jour, comme Shabbat, Hachem, il a fait Shabbat le septième jour, c'est-à-dire pendant toute la semaine, six jours, il a créé, et le septième, il s'est arrêté. Alors nous aussi. Donc c'est interdit de créer, transformer le Shabbat, c'est clair? D'accord. Mais dans le fait de porter, où est la transformation? Il n'y a pas. C'est la même pomme, je la prends ici, je la mets là-bas. Mais quel arbre est-ce pas? Ça transforme. Alors il avait dit un ridouche, une fois, un arabe. Il avait dit comme ça. Il avait dit, un objet, il a plusieurs caractéristiques. La taille, la couleur, la forme. Mais une des caractéristiques ici aussi, c'est quoi? C'est l'endroit où il est. Il est meyouras, il est relié à l'endroit où il est. Par exemple, tu dis, donne-moi le stylo qui est posé sur l'étagère de la salle à manger. Donc c'est le stylo qui est sur l'étagère de la salle à manger. Donc son contexte, il fait partie de sa définition. Maintenant, quand je le prends de la salle à manger et je le mets dans la voiture qui est dehors, j'ai changé son contexte. Ça va? Ça s'appelle une transformation. Maintenant, comme cette transformation, elle se voit pas, elle est très abstraite, parce que dans l'objet, tu as l'impression que ça n'a pas changé, ouais. Donc automatiquement, on l'a mis en premier dans l'enseignement de Shabbat. En français, ça s'appelle que le contexte fait partie de la définition de l'objet. Exactement pareil qu'une personne qui change de pays. Elle n'est plus dans son contexte. Comme des Libanais qui habitent à Milan, un exemple, d'accord? Ils changent de contexte. Alors ils ont toujours la nostalgie d'un certain... Ouais. Pourquoi? Parce que le contexte, il fait partie de la personne. La preuve, c'est que même si tu habites n'importe où, tu dis, mais vous êtes d'Algérie, vous êtes Marocain, vous êtes Libanais, comment tu sais? À la tête. Tu transportes ton contexte avec toi. Ça fait partie de toi, ouais. C'est ton contexte familial qui te transporte avec toi. T'as quelque part, excuse-moi, vous n'êtes pas la fille d'un tel. Tu ne ressembles pas, ni à ta mère, ni à ton père. Comment elle sait? Je sais pas, c'est ton contexte familial. Tu te transportes avec toi. C'est ta définition. Il y a des ondes que tu développes qui font que, ah oui, justement, on est cousins. Et des fois, c'est difficile parce que quand tu es cousin, tu ne portes même pas le même nom de famille. Mais je sais pas, vous êtes de ce bled là-bas, vous êtes de ce pays là-bas. Ouais, comment tu sais? C'est le contexte. Il y a le même principe dans les lois du Sefer Torah. Vous savez que quand on écrit un Sefer Torah, les lettres ne doivent pas se toucher, vous savez ça ou non? Les lettres ne doivent pas se toucher. Pourquoi? Parce que marqué Ur Tav Tam, on dit, la Gemara dit que Tiva, Tav, Tam, Tav, Tam, l'écriture parfaite. C'est quoi table? C'est complet. Ça veut dire que l'écriture doit être complète. Or, quand on regarde l'écriture d'une lettre, on regarde la lettre en elle-même et le blanc qu'il y a autour. Eh bien, le blanc, il fait partie de la lettre.
Vous le savez ou non?
Maintenant, si on colle deux lettres, on a déformé le blanc qui est autour.
Ça va?
En français, ça s'appelle le complexe.
Tu vas dire quel rapport?
C'est la même chose. Parce que la Torah, la Gemara, elle dit que chaque lettre du Sefer Torah correspond à un juif, au matin de Torah.
Oh non, si c'est pas possible, s'il y avait 600 000 juifs, d'accord, mais il y a 312 000 lettres.
Donc il en manque plus, il en manque beaucoup. Alors il dit, parce qu'il dit le Gaon de Vilna, là, parce qu'il y a des lettres qui sont composées. Par exemple, le même, c'est un Kha et un Vav. C'est un Kha et un Vav, ça fait un même. Le Aleph, c'est un Vav avec deux Yud, un à l'endroit, un à l'envers. Donc ça fait trois lettres. Un petit peu, bon. Maintenant, chaque personnalité, elle a ses caractéristiques. Mais en même temps, elle a son contexte. Maintenant, est-ce que tu vas regarder la lettre par rapport à sa forme, ou est-ce que tu vas regarder la lettre par rapport au blanc qui l'entoure? Alors, si on dit que chaque lettre c'est une personne, est-ce que tu vas juger une personne sur ce qu'elle est, ou tu vas juger une personne sur son contexte? Ce que la personne elle est, ça représente sa réalité. Mais son contexte c'est quoi? C'est ce qu'elle réalise. Alors tu dis, écoute, je m'excuse, le potentiel d'accord, mais la réalité, zéro. Vous êtes le fils d'un tel. Dis-moi, tu es toi-même ou tu es le fils d'un tel? Toi, t'es qui comme ça?
Moi-même.
T'es la femme de l'architecte? T'es la femme de l'architecte? Comment est-ce que t'es la femme de l'architecte? Non, non, je suis moi-même. Non, vous êtes la femme de l'architecte? Non, je suis moi-même. Là, c'est ton contexte. Parce que toi, t'es dans le blanc de l'architecte. Et lui, il est dans ton blanc à toi.
Moi-même, fils.
D'accord. Mais il faut que tu aies ta place à toi. Mais des fois, hein, y a des parents, ils ont une ombre tellement épaisse que les enfants n'arrivent pas à grandir dans l'ombre. C'est dur d'être le fils d'eux. C'est dur. C'est dur. C'est pas évident. Ouais. Ah, tu ne comprends pas. Si toi, tu développes ta personnalité, l'enfant, il n'a plus d'espace. Si toi, tu retiens sa personnalité, c'est bien. Comme ça, l'enfant, il aura de l'espace. Maintenant, si toi, tu laisses de l'espace à l'enfant, c'est que toi, tu ne t'es pas développé. Ah, tu dis, est-ce que moi j'ai le droit de me retenir d'exister pour que mon fils existe? Parce que s'il va être écrasé par ma personnalité parce qu'elle est trop forte, alors d'un côté ça le rassure, d'un autre côté ça l'empêche de s'épanouir. Alors on te dit, il faut créer un espace pour que l'enfant existe. C'est exactement pareil. La volonté de Dieu, elle remplissait tout. Donc quand Dieu existe, l'homme ne peut pas exister. C'est impossible. Donc Dieu, il a été obligé de créer un espace. Ça s'appelle le Tzimtzoum. Oui, il a fait une concentration, il a créé un espace pour que l'homme existe. Maintenant, l'absence de Dieu, c'est la présence de l'homme. Ça va? Donc l'absence des parents, c'est la présence des enfants. Alors pourquoi Hachem a fait que quand les enfants, les parents, quand l'enfant est petit, l'enfant a besoin de ses parents physiquement, d'accord? Et quand l'enfant est grand, l'enfant, il a... l'enfant a moins besoin de ses parents physiquement. Par exemple, l'enfant il a 15 ans, tu lui dis, moi je rentre dans la douche, je vais te laver. Non, c'est bon. Il dit, non. Et moi, je t'en prie, je te lave, je t'habille, je te mets tes chaussons, je te ferme ta chemise. Je comprends pas, il a 21 ans. 40 ans. Ou 40 ans. Ouais. Alors ce qu'on appelle l'inversement des courbes. Quand l'implication physique elle baisse, l'implication psychologique elle augmente. Maintenant, toi, il est bébé et tu passes des heures et des heures à lui parler dans ton berceau. Mais maintenant qu'il a 15 ans, il a besoin que tu lui parles, si j'ai pas la patience, il m'énerve. Quand il a besoin d'une présence physique, tu lui donnes une présence physique. Mais quand il a besoin d'une présence psychologique, ne lui donne pas une présence physique. À la place. Comme un couple. Un couple. Au début, c'est très physique. Ouais. Au fur et à mesure, ça baisse parce que la capacité physique, elle baisse avec l'âge. Mais heureusement, entre-temps, la compensation psychologique, elle a fait qu'on se retrouve différemment. Maintenant, les gens qui ne développent pas la compensation psychologique sont obligés de prendre des petits cachets bleus. Pour compenser, ouais, pour compenser l'absence psychologique. Mais c'est pas possible. Parce qu'on veut, créer cet espace, on veut le créer, on le veut. Ouais, ça intéresse quelqu'un de le créer. Exactement pareil. Par exemple, vous voyez, à Yom Kippour, la veille, tu as mangé 1 million de calories. Donc t'es fort. Mais à la fin de Yom Kippour, tu es très très faible physiquement. Si tu as bien prié. Mais spirituellement, tu es très fort. Ça veut dire que l'absence de physique, elle libère quelque chose. L'absence de physique, elle libère quelque chose. Alors je te dis, sois un peu absent. Sois un peu absent physiquement de tes enfants pour leur créer un espace psychologique. Si c'est trop présent, ça c'est un grand rabbin, une fois il avait posé la question, il a dit, est-ce que l'éducation c'est de savoir bien ouvrir les yeux ou est-ce que l'éducation c'est de savoir fermer les yeux? Vous comprenez ou non? Et là il a dit, oh vous savez, faut pas regarder tout de suite. Tu le saoules, tu vois, c'est une tentation. Tu veux engueuler ton fils par exemple. Alors, il a fait un problème. Mais toi tu as 54 dossiers que tu n'as pas réglé. Alors tu commences avec un problème et tu dis oui, à part ça, ça va pas les mathématiques, et tu résumes par la guémara, et il y a ta main par main à ta mère, et tu t'habilles mal, et je suis pas d'accord comment tu traites ton truc, et tu réfléchis pas, et de toute façon tu m'écoutes jamais. Tu vois là, tu étais venu pour un dossier, tu lui as sorti 34. Tu lui dis bon, tant qu'il est là, je lui mets le maximum. Mais tu sais combien il a retenu de 34? Hein? Une envie de vomir. Ben, c'est comme quand tu invites quelqu'un à manger. Ah, tu dis voilà une salade, voilà une viande, voilà un truc. Alors il dit, vous voulez encore un poulet? Ah ça va. Prenez des boulettes, je peux plus. Prenez un gâteau, j'arrive plus. Un homme tout noir. L'autre dit ça. Comment c'était? Il a bourré. Ouais. Ben c'est vrai que c'est une tentation, parce que l'enfant il a fait une bêtise, il est comme ça. Alors il t'écoute, pendant qu'il m'écoute, je vais lui mettre le maximum. Mais c'est antipédagogique. Parce qu'il ne va ressortir de là qu'une envie, une grosse envie de vomir, genre. Donc globalement, d'après ce que tu dis, je suis vraiment nul. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu vas régler un problème. Maintenant on va parler de ça. Mais il y a autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Pour l'instant, on va parler de ça. On va parler du manque d'attention. On va parler de ce problème de mensonge. On va parler de ce problème de gazelle, de vol. On va parler de ça, c'est tout. Tu dis, mais il y a plein de trucs à régler, pas grave. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'éducation, c'est pas de la formation. L'éducation, c'est un format. Nous, ce qu'on veut, c'est atteindre un format de maturité. Maintenant, quand on a atteint un format de maturité dans n'importe quel domaine, il va s'appliquer le format. Ça va? Mais si on croit que c'est des informations, c'est ce que l'enfant avec les informations? Il dit, mais je sais. Tu m'as fait assurer. Mais oui, je sais. Je comprends pas, mais pourtant, je lui ai dit. Ça, il ne comprend pas les gens. Mais le problème, c'est pas de dire. Le problème, c'est que ça passe. Et je vais lui redire, mais c'est pas si. Mais il le sait. Mais il sait très bien. Le problème, c'est pas qu'il doit le savoir, c'est qu'il doit le vivre. Mais pourtant, je lui ai dit. T'as pas compris? Puisque quand tu lui dis, lui, il le sait. Mais toi, tu veux pas qu'il le sache, tu veux qu'il le vive. Donc ça sert à rien de lui dire, il faut le vivre. Je comprends pas, c'est son problème ou c'est mon problème? Ça sert à rien d'exiger la vérité d'un enfant si tu mens. Ça sert à rien d'exiger la cohérence si tu es incohérent. Ouais. Donc ce qui est mécaïen chez lui, c'est ce qui est mécaïen chez toi. Toujours pour ça que je donne toujours l'exemple de la prière. Ouais. Tu fais la prière, tu vois ton fils, pourquoi tu pries pas? Pourquoi tu pries pas? Mais comment tu sais que je ne prie pas? Je te regarde. Et si tu me regardes quand tu pries, donc tu pries pas non plus. Ah, tu dis, mais si je prie, alors qui c'est qui va le regarder quand il prie? D'accord, mais lui, quand il lève la tête, il voit que tu ne pries pas. Donc, tu lui mets ça, c'est une question de confiance. Ah, alors peut-être la confiance aussi, c'est un espace que tu as créé chez toi. Dans la place que lui donne à l'enfant, il y a un espace qui s'appelle la confiance. C'est quoi la confiance? La confiance, en latin, c'est confiance, avec foi. Maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est la relation qu'on entretient avec les choses qui ne se voient pas. Les choses qui ne se voient pas. Tu vas prendre la lumière. Je te dis, dans la pièce d'à côté, il y a ta sœur. Je ne sais rien, je sais. Mais je ne la vois pas. Tu fais confiance? Je te fais confiance. j'ai foi en ta parole. Donc la foi, c'est la relation de sérénité que tu entretiens avec ce qui ne se voit pas. C'est bon ? Voilà. Alors toi, tu veux que ton enfant, il ait foi en lui. Donc, il faut qu'il entretienne avec lui un lien invisible, ouais, de sérénité. C'est ça la foi. Maintenant, pour que lui, il ait foi en lui, il faut que toi, tu aies foi en lui. Tu dis, mais j'ai pas confiance. Mais si tu n'as pas confiance en lui, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu dis, moi, à sa place, j'aurais menti. Donc, c'est lui qui a menti ou c'est pas menti. Donc la vraie question, c'est de savoir, est-ce que l'enfant, il est là pour que tu t'occupes de lui, ou est-ce que l'enfant, il est là pour que tu t'occupes de toi? Je vais vous dire un truc idiot. Les enfants, c'est comme les arbres. Même quand tu les arroses pas, ils poussent quand? Ça va? Donc il va grandir. Il va évoluer. Il va prendre sa place. Il va être comme ça, il va être comme ça. La vraie question, c'est est-ce que tu as profité de sa présence pour devenir quelque chose comme ça? Je comprends pas, alors c'est pour lui ou c'est pour moi? C'est pour lui ou c'est pour moi? Oui.
Je dis, mais c'est très bien.
C'est les liens d'interaction. Parce que toi, tu vas être un parent pour lui. Tu vas être un parent pour lui. Oui. Lui, il va être un parent pour toi. C'est la logique. Que toi, tu veux fonctionner avec lui. Tu veux être avec lui, tu veux croire en lui, tu es obligé d'avoir confiance. Puis mais c'est risqué, et c'est comme tu veux, c'est comme tout. Pourquoi tu sors dans la rue, il y a des terroristes? Je dis mais j'ai confiance. Mais pourquoi tu ouvres ton magasin, il y a des dépôts de bilan tous les jours? J'ai confiance. Pourquoi tu te maries, il y a des divorces tous les jours? J'ai confiance. Donc tu vois bien, c'est impossible d'avancer sans confiance. Maintenant la confiance, elle peut être de nature négative, ou elle peut être de nature positive. Maintenant, la confiance de nature positive, on l'appelle la conscience. Ouais. Et la confiance de nature négative, on l'appelle le souci. C'est pour ça que je vous ai dit souvent, un homme, par exemple, il doit avoir conscience de l'importance de l'argent, mais il ne doit pas avoir le souci de l'argent. Tu dois avoir la conscience de l'éducation, mais tu ne dois pas avoir le souci de l'éducation. Tu dois avoir la conscience du Shalom Bayit, mais tu ne dois pas avoir le souci du Shalom Bayit. Parce que le souci, c'est une connotation négative qui va pourrir l'espoir. Ah, tu dis, nous dans notre famille, on est plutôt des gens angoissés, c'est une connotation. Ouais. Tu conduis, tu penses à l'accident qui va t'arriver, ou tu conduis en faisant semblant à la vitesse de ta voiture et à ce qui se passe autour. Là, tu es conscient, là, tu es soucieux. Donc le souci, c'est une connotation. Le bitachon, c'est une connotation positive de la conscience. Et l'angoisse, c'est une connotation négative de la conscience. Ça va ? Maintenant, comment tu regardes ton fils ? Avec des soucis ou avec de la conscience ? Ah, il nous donne beaucoup de soucis. Ouais, comment tu travailles dans le business ? Comment tu fais, toi ? T'as le stress ? Mais je suis entouré d'incapables, je suis obligé de tout faire. Donc c'est dommage, tu payes des flemmards. Tu dis, mais si on leur fait confiance, ils ne font plus rien. D'accord. Donc qu'est-ce que tu fais, tu veux avoir la gamme de dire, non seulement je suis capable de me payer, mais en plus je peux les payer à tous. Je parle que juste ta confiance. Oui, mais tu dis, oui, mais c'est pas exactement, ils font pas exactement ce que j'attendais. Oui, tu viens de découvrir que l'autre est quelqu'un d'autre, c'est bien. L'autre, c'est quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être exactement toi. Ta femme, elle ne va pas faire le même goût que ta mère. Sinon, il fallait épouser ta mère. Donc, elle a fait le goût. Déjà, c'est pas mal, elle a fait des efforts pour faire le goût de ta mère. Mais c'est son goût à elle qu'il faut aimer. Après, c'est sa façon de ranger la maison. Après, c'est sa façon de s'habiller. Oui, mais c'est pas... J'ai un cliché dans la tête, j'arrive pas à me débarrasser. Fallait te marier avec ton cliché. T'as aussi. Ouais. Ça s'appelle la différence. Et bien cette différence-là, c'est la confiance que tu as, que l'autre, dans la différence, il est bien. Ça va ? Alors vous allez me dire à ce moment-là, on ne peut plus avoir d'ambition. Parce que si on a de l'ambition, on va enfermer l'autre dans notre rêve. Alors, si on enferme l'autre dans notre rêve, on sera automatiquement déçu. Parce que le rêve, ça s'appelle que la projection de moi. Mais moi, je dois apprendre à accepter sa projection à lui, ou je dois lui imposer mon rêve à moi. Donc, c'est un grand problème. Est-ce que l'éducation, c'est développer une ambition, ou est-ce que l'éducation, c'est développer une capacité d'adaptation? Parce qu'il y en aura des différences, pour ne pas dire des déceptions. Comprenez ou non? Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Tu dois apprendre à aimer tes enfants tels qu'ils sont, ou alors tu dois leur reprocher ce qu'ils sont pour qu'ils deviennent ce que tu attends? Alors c'est un problème. Parce que s'ils ne deviennent pas ce que tu attends, et ils n'épanouissent pas ce qu'ils sont, ils sont personne. Après tu dis oui, ils sont cassés, ils n'ont pas d'ambition, ils ne sont pas eux-mêmes, ils ne sont pas entiers. Ben, eux-mêmes, tu les as empêchés d'être. Toi-même, ils ne peuvent pas l'être. Ils ne peuvent pas être toi. Parce que si bon Dieu voulait que eux ils soient toi, il leur désirait pas mis eux parce qu'il y a déjà toi. Tu dis mais peut-être que eux ils vont être celles que j'ai pas été. Très grave ça. Je sais pas si vous. Donc celle qui a pas fait d'études, elle veut que sa fille fasse des études. D'accord. Celui qui n'était pas docteur, il veut que son fils soit docteur. Mais peut-être que le gosse il voulait être cinéaste ou la rabbin, pire encore. Tu dis un rabbin, Hazel Shalom. C'est mortel. En compte, l'autre, toute sa vie, il a mangé du porc, il a travaillé que le samedi et les fêtes, et son fils, il devient le balouche. La malédiction. Maman, on coupe la tête. Ah! Tous les matins, il mange une médusa, tous les soirs, il boit un litre d'huile d'olive, il met une mèche comme ça. Il devient veilleuse. Alors toi, tu lui dis, mais va kiffer, va avec les godots, il dit, ah, c'est chaleur. Mais d'où il sort? J'ai vu des cas comme ça. Hein. Des parents qui m'appellent. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe. Mais mon fils est en train de faire une très très grave téchouvage. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'est-ce qui arrive? Nous l'avons fait grandir dans les pures traditions goy. Nous avons tout fait pour qu'il fasse une croix sur son judaïsme. Il s'est mis à prendre des livres, il s'est mis à faire la brit mila. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je lui dis, mais dans votre famille, vous n'avez pas de parents ou des arrière-grands-parents qui sont morts? Il dit, mais je lui dis, la roue, elle revient. Ça va? Les gens, c'est difficile, hein. C'est bien, c'est une forme de remise en cause. Mais quand c'est le contraire, c'est pire. Enfin, j'ai des cas comme ça. Des mamans, elles viennent me voir, elles disent, qu'est-ce que je dois faire avec ma fille? Elle doit absolument se convertir à l'islam. Alors qu'elle est dans une école nue, depuis qu'elle est petite. On est un peu désarmé. Je dis, mais enfin, depuis quand elle est au courant? Encore un. C'est difficile. Cette logique, c'est quoi? Vous ne croyez pas que c'est rare? Hein? Je ne vais pas ajouter la règle. Moi, j'en sais plus à la dixième. Personne. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toi, maintenant, tu réfléchis, que tu veux créer un espace de disponibilité, un espace d'ouverture, un espace positif. Et ça c'est un travail. C'est un travail. Parce que comme l'homme, il a tendance à s'étendre, donc tu t'étends dans ton égoïsme, après tu t'étends dans tes plaisirs, tu t'étends dans ta colère, tu t'étends dans tes nerfs. Alors comment tu vas faire? C'est continuellement, c'est un travail de restriction. Je crée un espace court. Comme je t'écoute, quand tu parles, je t'écoute. C'est pas facile d'écouter. Ouais, quand tu parles, je t'écoute, je crée un espace. Et après, je vais écouter ton point de vue. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses. Vas-y, dis-le. Mais vous savez qu'un enfant qui ne se sent pas écouté, il parle pas. Déjà, il ne comprend pas. Ah, mais il ne parle jamais. Mais est-ce que tu l'écoutes? Je ne peux pas écouter un gamin. C'est ça ton problème. Parce que comment un gamin, il va développer sa volonté de parler? Parce que quand il est petit, il dit n'importe quoi. Quand il a 14-15 ans, c'est l'âge d'être. Quand il a 18 ans, je suis fatigué d'écouter. Alors quand est-ce que tu l'as écouté en parlant? Ouais. Alors que le contraire, prends le temps. Même un tout petit enfant, un enfant de 6 ans. Ouais. Et pourquoi les synagogues, elles sont un peu loin de la maison? C'est fait pour ça. C'est pour parler. Parle-lui, demande-lui qu'est-ce qu'il pense. Demande-lui qu'il te raconte une histoire. Tu vas voir quel genre d'histoire il te raconte. S'il te raconte que des cauchemars, faut réfléchir. C'est normal, prends du temps. Je dis, mais j'ai pas le temps. Pour ça, en français, on appelle ça consacrer. L'écadré, c'est ta demande. Tu consacres ce temps-là. C'est un temps pour ça. C'est la Mishnah, c'est un temps. Ouais. La Gemara, c'est un temps. La prière, c'est un temps. Et l'écoute, c'est un temps.
Il n'y a pas moins de mitzvah avec les téfilin que de passer un moment à parler avec ton fils. Il n'y a pas de moins. Vous savez? Et crois-moi qu'il se rappellera plus le temps qu'il a passé à parler avec toi que le temps qu'il a passé à mettre ses téfilin. Pourquoi? Parce que tu as consacré. C'est-à-dire que dans ton emploi du temps, tu as créé un espace pour lui. Mais ça a été l'air de quoi? À 40 ans de parler avec un gamin? C'est comme tu veux. Maintenant, cet effort que tu fournis pour qu'il ait une place dans ta vie,
ouais,
c'est ce qui va faire que toi, en tant que repère, t'existes dans ta vie. Parce que père, repère. Alors toi, tu crois que l'enfant, il retient ce qu'on lui dit. Mais non, je dis, ce qu'on lui dit, c'est rien, c'est la transmission de connaissances. L'enfant, il ne retient pas ce qu'on lui dit. L'enfant, il retient ce qu'on est. Donc, il faut être. Il faut coexister avec lui. C'est du temps. Maintenant, après, c'est quoi la forma? C'est que ce n'est pas forcément une question de longueur. C'est une question d'intensité et de régularité. Il vaut mieux peu, mais intense et vrai, mais régulier, plutôt que beaucoup, mais rien. On a fait 5 heures de football, 4 on a regardé le film ensemble. Mais non, tu n'as pas regardé le film ensemble. Toi, tu as regardé le film et lui, il a regardé le film. Il n'est pas regardé ensemble. Vous l'avez regardé l'un côté de l'autre. Par contre, si tu veux bien lui parler, tu sais, j'ai bien réfléchi. Tu sais, dans la vie, des fois, on comprend les choses comme ça, et après, on comprend autrement. Et là, j'ai vu que dans la vie, des fois, il faut accepter les choses, et puis il faut les comprendre. Maintenant, si tu le dis vraiment, et tu le ressens vraiment, tu l'as marqué au fer rouge. Toute sa vie, il va se rappeler qu'il a eu cette discussion avec son père. Et tellement ça lui a fait du bien d'avoir cette petite intimité. C'est pareil, tu prépares les salades avec ta fille le jeudi soir et tu lui parles. En même temps qu'elle coupe les légumes, tu lui racontes, tu lui dis, ah tu sais, moi des fois dans la vie, je pense des trucs comme ça, puis en fin de compte, eh ben, ça change, et puis c'est pas grave, et puis on réussira. C'est quand j'ai ressenti ça pour le deuil de ça, ou quand j'ai perdu ma grand-mère. Ah compris, c'est pas grave. Et l'autre est en train de passer à dire, oh, on a passé un bon moment. Pourquoi? Parce que vous avez coexisté. Au lieu de cohabiter, vous avez coexisté. Maintenant, encore une fois, je dis, c'est pas évident, parce qu'il demande la patience. Mais c'est quoi l'expression à la mode chez les jeunes aujourd'hui? J'ai pas les nerfs. Je dis, viens, on va s'asseoir. J'ai pas les nerfs. Révise, j'ai pas les nerfs. On va faire un tour, j'ai pas les nerfs. C'est la nouvelle expression, je sais pas si ça existe en italien. Hein.
Ils sont très nerveux, les enfants. Ils ont pas les nerfs. J'ai pas les nerfs.
C'est bizarre, non? Mais t'as les nerfs, toi? Comprenez cette logique-là? Si je suis pas pressé, voilà, je m'assois, j'ai rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'interroger? Tu veux me faire de la morale? Non, non, je veux rien. Je veux m'asseoir avec toi, c'est tout. Tiens, on va se balader, viens, on marche un peu. J'ai pris un temps pour toi. C'est un temps qui ne sert à rien. C'est pas dans le projet pédagogique, c'est pas... Ça sert à rien. C'est juste pour passer du temps avec toi. Donc comme moi, j'ai pris du temps pour toi, donc je me suis inscrit dans ton contexte, puisque dans mon contexte à moi, j'ai pris une place. Alors c'est le contexte-là, tu vas le porter avec toi, tu vas l'emmener avec toi. Là où tu vas aller, ça s'est inscrit, c'est dit, hop. C'est-à-dire, ton père, il est là, ta mère, elle est là, tes souvenirs, ils sont là, tes enseignements, ils sont là, ta crainte de Dieu, elle est là. C'est ça ce qui va former le relief de ta boîte crânienne psychologique. C'est ça les repères. Parce qu'on dit qu'on a les parents physiques, le temps de créer les parents psychologiques. Le jour où on perd les parents psychologiques, il vaut mieux qu'on ait entre-temps créé les parents. Le jour où on perd les parents physiques, il faut espérer qu'entre-temps on a créé les parents psychologiques. Ça va? Ben ça c'est quoi? C'est l'espace, encore une fois. C'est le backup que tu crées. C'est pour ça que, par exemple, quand on donne un espace de disponibilité, disponibilité d'esprit, disponibilité morale, disponibilité intellectuelle, en vérité, qu'est-ce qu'on prouve? On prouve à l'autre que son existence, elle a un intérêt pour quelqu'un. C'est ça le kavod. Le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc quand je te respecte, je t'encourage à exister. Maintenant, pourquoi les gens existent? Parce qu'ils voient que leurs expressions d'existence sont reconnues. Donc, le meilleur encouragement à l'existence, c'est l'existence. Vous avez suivi le raisonnement? c'est que quand moi j'ai existé pour toi, toi tu auras envie d'exister pour moi. Donc quand le père il a existé pour son fils, le fils il va exister pour le père. Et quand l'homme il va exister pour la femme elle va exister pour son mari. Et quand l'homme il va exister pour Dieu, Dieu il va exister pour l'homme. Donc le rapport de coexistence ne peut être que le fruit du cumul de deux existences. Mais alors si tu fais semblant, l'autre il fait semblant. Si tu n'y crois pas, l'autre il n'y croit pas. Si tu n'as pas la tête, l'autre il n'a pas la tête. Si tu n'arrives pas à te consacrer, ben l'autre il n'arrive pas à se consacrer. Si tu n'arrives pas à te concentrer, l'autre n'arrive pas à se concentrer. Tu dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu, pourquoi tu me regardes? Fais ce que tu as à faire. Mais je peux pas. Génétiquement, je viens de toi. Vous comprenez ou non? C'est que si le bon Dieu, il t'a mis en face de quelqu'un, c'est que tu as quelque chose à en apprendre. À plus forte raison, celui avec qui tu vas passer la moitié de ta vie. Pareil dans le couple. Pareil pour tes professeurs, pareil pour tes amis, pareil pour tes ennemis. Donc après, c'est seulement d'essayer d'être capable d'avoir cette disponibilité. Ouais. Par exemple, on a dit, tu crées un espace au niveau ponctuel et tu crées un espace au niveau perpétuel. Maintenant, comment on appelle la perpétuité de l'espace, parce que l'espace, c'est le droit d'exister que l'autre, ouais, ça s'appelle d'être prévisible. C'est-à-dire que tu es prévisible. Tu es quelqu'un de fiable. Tu n'es pas lunatique. Et les gens, ils crient, après ils sont contents, après ils rigolent, après ils font la tête, après ils pleurent, après... L'enfant il dit, attends, je comprends plus rien. Il faut être prévisible. Il faut avoir une perpétuité de sérénité. Il faut exister de manière régulière. Alors pour l'enfant, ça donne des repères. Tu me dis, mes nerfs. Je suis content, je suis pas content, j'ai des humeurs, j'ai des nerfs, j'ai des soucis, j'ai des... Mais oui, mais ça n'a rien à voir. Regarde la voiture, elle a des amortisseurs. Pourquoi faire? Ben, le parterre il est droit, le parterre il n'est pas droit, le parterre il y a des cailloux, le parterre... Mais toi tu roules, hein. Tu t'en vas. C'est une bonne voiture, il y a des bons amortisseurs. Alors toi normalement à 40 ans, tu dois avoir des amortisseurs. T'as pas d'amortisseur. Les nerfs du travail, tu les mets à la maison. Les nerfs de ton voisin, tu les mets sur ton fils. Les nerfs de tes fils, tu les mets sur ta femme. Les nerfs de ta femme, tu les mets sur ton mari. Les nerfs de ton mari, tu les mets sur ta belle-mère. Les nerfs... T'as un problème toi. Où sont tes amortisseurs? C'est facile, et puis on n'est pas des anges, et on n'est pas surhumains, il faut bien, c'est normal qu'on s'exprime. Mais oui, mais exprimer, pourquoi je vous donne cet exemple, je ne sais pas, les gens ne comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'on va aux toilettes tout seul? Pourquoi on n'y va pas à plusieurs? Pourquoi on va à la douche tout seul? Pourquoi on ne rentre pas tous dans la douche? Hein? Parce que tout ce qui est négatif chez toi, pour t'en débarrasser, tu n'es pas obligé d'en faire profiter les gens que tu aimes. Ta crasse, tu l'évacues tout seul. Ah, j'ai ton repas. Enfin, si je peux pas en parler. Avec qui je peux en parler? Non. Toi, tu développes l'énergie qui construit avec l'autre. Mais les déchets, il ne faut pas les donner aux gens que t'aimes. Ils ne sont pas obligés de supporter ça. Il y a des professionnels qui sont payés pour écouter, et toi qui donnes le meilleur ici, le bon ici. Mais l'autre, il est d'accord, lui il est d'accord. Je dis fais attention, parce que maintenant que tu t'es pourri le portrait à montrer ta nullité, après tu dis, oui mais l'autre il ne me respecte pas. C'est logique. Comprenez-vous ? Ça veut dire qu'il y a une dignité, il y a une connaissance de soi et ça. Et ça par rapport à l'enfant, c'est aussi ça. C'était prévisible. Donc l'enfant, il sait comment tu fonctionnes. Tu es régulier. Tu es régulier que quand il fait du bien, tu récompenses. Quand il fait du mal, tu punis. C'est régulier. Non, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il a fait une bêtise. Tu lui as fait un cadeau. Ouais. Et il a fait du bien. Tu lui dis, ah, c'est comme ça. Et là, je te récompense pas. Attends, je ne comprends pas. Il faut être régulier. Il faut être prévisible. Ouais. Alors, ce côté prévisible, c'est quoi? C'est que l'enfant, il a confiance parce qu'il sait. Tu l'as dit, tu viens, tu viens. Tu l'as dit, tu vas lui donner une tannée, tu lui donnes une tannée. Si tu dis, je lui donne une tannée, après il dit, oh, je lui donne pas la tannée, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il va croire, enfant? Il va croire dans la vie, c'est comme ça. Bah, tu sais, des fois, on croit les gens, et puis un jour, et en fin de compte, on est déçu. Et quand tu lui donnes bien la tannée, qu'il a mérité, lui, il comprend que dans la vie, bah, ce qui doit arriver, arrivera. Donc il apprend à se préserver de faire la chose, parce qu'il sait que ça va arriver. Mais s'il dit, bon, mais je peux toujours trouver un petit trailway, un petit route, une petite réponse. Donc en fin de compte, il n'assume jamais parce qu'il sait qu'il peut échapper. Donc tu lui as pas rendu service. C'est pas grave. Tu lui as dit, tu pars en vacances. Si tu si tu finis bien l'année, il n'a pas fait, il va rester à Milan. Ah, mais le pauvre, il faut le... C'est comme tu veux. Mais lui, c'est le contraire, lui. Lui, il dit, je ne fous rien toute l'année, on paye des vacances de rêve. Mais comme il va bien crever à Milan, dans la chaleur, alors que ses frères et sœurs, ils sont à la plage, peut-être qu'il va réfléchir. Ah, mais c'est une éducation trop dure, c'est basé sur la frustration, nous, nous sommes basés sur la récompense, c'est comme tu veux. C'est normal. Tu mets le bois dans la chaudière, ça chauffe la maison. Tu mets le bois sur l'incendie, ça brûle la maison. C'est comme tu veux. Tu mets le bois où tu veux. Et ça donne des principes, c'est-à-dire ça fonde des choses, ça fixe les choses. Il va te remercier. Il va te remercier. Pourquoi ? Parce que tu as fondé. C'est-à-dire les structures, elles sont posées. Et dans ça, il y a ça. Pourquoi ? Parce que Karov, Hachem, les chocs coréales. Hachem, il est proche de tous ceux qu'il appelle. Comment il sait ton fils qu'il peut compter sur toi ? C'est parce que tu réponds présent.
Parce que tu n'as pas ?
Tu réponds présent. Ah, tu n'as pas toujours présent. Non. D'accord. Donc lui, il sait qu'il peut, il peut pas compter sur toi. Mais le père, le fils, le père, Hachem. D'accord ? Donc quand il sait qu'il peut compter, dans le bien ou dans le mal. Donc avec Hachem, il sera pareil. Et même s'il n'est pas croyant à 100%, mais avec la vie, il sera pareil. Donc comme quelqu'un qui croit en la vie, parce que ceux qui lui ont donné la vie, ils croient en eux. Regardez-leur qui ont une enfance difficile, avec des parents déséquilibrés, toute leur vie est déséquilibrée. Pourquoi c'est très très dur de maintenir une trajectoire, ouais, quand la première partie, elle n'a pas été droite. C'est pour ça que c'est un équilibre entre le. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, on a dit, si maintenant vous prenez tous les éléments, on a dit un espace sentimental, d'accord, où tu peux investir. Un espace intellectuel, d'écoute. Un espace de prévisible. Un espace de... C'est tout cet ensemble-là qui crée. Après, c'est un dosage. Par exemple, vous voyez, la Torah nous raconte que Caïn et Abel, qui étaient les deux premiers enfants de Adam Arishon et de Chava, ouais, vous avez lu ce passage dans Bereshit là-bas. Ah, il a voulu amener un corban, il a amené du pishtan. Il a amené du lin. Et l'autre, il a voulu amener un corban, il a amené de la laine. D'accord ? Maintenant, le lin, ça représente quoi ? La midatadine, la rigueur. Et la laine, ça vient du mouton. Le mouton, c'est l'animal le plus doux qui existe. Ça représente la famille, la miséricorde. Maintenant, vous savez que le mélange de lin et de laine est interdit dans la Torah. Ça s'appelle Sha'atnez. Maintenant, Sha'atnez, c'est les mêmes lettres que Satan Al. Un Satan puissant. Ça, c'est un des phénomènes bizarres de la vie. Le lin tout seul, c'est très bon. La laine toute seule, c'est très bon. Le mélange des deux, ça fait quelque chose de mauvais. Le lait tout seul, c'est très bon. La viande tout seul, c'est très bon. Mais le mélange du lait et de la viande donne quelque chose de comme tu t'arrêtes. Si tu manges du lait et de la viande cuit, c'est comme si tu manges du cochon. Ou des écrevisses ou du homard. Du côté heureux, c'est pas possible. Le homard en lui-même, le homard, ouais. Le homard, qu'on appelle le homard. Cowboy, comment on appelle le homard Chérif. Ouais, le homard. Il est taré, il n'est pas caché, il n'est jamais caché. C'est pas caché, oui. Mais le lait, c'est caché. La viande, c'est caché. Mais le mélange des deux, c'est mauvais. C'est interdit. Ouais, cuit ensemble. Le lin, c'est bien. La laine, c'est bien. Mais non, le mélange des deux, c'est chaknez. C'est très très mauvais. Ouais, le chaknez, c'est un des interdits de la Torah. Que à chaque seconde que tu le portes, tu transgresses. Mais c'est bizarre, c'est que si tu prends du chaknez pour une mitzvah, ça devient permis. Si tu prends un talit en laine, et tu prends des tzitziot en lin, et tu les mets, ouais, comme ça, ouais, tu prends des tzitziot en lin, et tu les accroches dans un talit en laine, et bien c'est permis. Assez d'okhir ou pas assez, parce que la mitzvah de Titi, elle va repousser l'interdit du chatnez. Les Kohanim, par exemple, ils portaient du chatnez. Alors, on reprend. Le lin tout seul, c'est bon. La laine tout seul, c'est bon. Quand tu les mélanges, c'est mauvais. Donc, c'est pas bon. Mais si tu le fais pour une mitzvah, ça devient bon. Tu comprends pas.
Alors là, Baz, il explique. Il dit, le corban de Caïn, c'était quoi, hein? C'était le lin. Le lin, c'est quoi? C'est la rigueur. Ça va? Parce que lui, il pensait que le monde, il ne devait fonctionner que selon la rigueur. Alors, c'est quoi la rigueur? La rigueur, c'est le projet. Le projet, il est toujours rigoureux. Le plan de l'architecte doit être précis. Il ne peut pas être en gros. Ouais. Vous avez déjà vu comment ils font comment on construit une maison, ouais? Le plan de l'architecte, il est au millimètre près. Mais quand le maçon, il monte la maison, bon, il monte comme ça, après tu vois du béton ici, du béton là-bas, un peu plus, un peu plus. Tu dis, attends, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce que vous en faites, monsieur? Ne regardez pas comme ça. On va améliorer, on va arranger, on va tout. Vous allez voir, après quand on va mettre le revêtement, ça sera net. Donc, le projet, il doit être rigoureux, midat adin. Les moyens de le réaliser, eux, ils doivent être midat arahamim. Maintenant, Caïn, il pensait que ce qui comptait, c'était quoi? C'était que le projet. Donc, c'était la rigueur qui était prioritaire. D'accord? Abel, il pensait que c'était la miséricorde qui était prioritaire. Il fallait que le monde fonctionne selon la miséricorde. On les a confrontés les deux. L'un tout seul, il est très bon. L'autre tout seul, il est très bon. Mais quand on les met ensemble, c'est foutu. Qui c'est qui est mort le premier? Celui qui pensait que le monde, il avait selon la miséricorde. Qui c'est qui l'a tué? Celui qui pensait que c'est la rigueur qui gagne, c'est normal. Maintenant, la rigueur aussi, elle est morte, puisque Caïn est mort. Donc la rigueur toute seule, elle meurt. Et la miséricorde toute seule, elle meurt. Qu'est-ce qu'il fallait? Il faut l'équilibre entre les deux. Chet, c'est l'équilibre, c'est le troisième vice, c'est l'équilibre entre la rigueur et la miséricorde. D'accord? Oh, c'est bizarre, le père, il ressemble à Caïn. Ouais. C'est Pishtan. C'est le pshat, le fils, le père, c'est le pshat. C'est le sens des choses simples, c'est net. La mère, elle ressemble à Rahamim. Ouais, c'est ses mères, d'ailleurs c'est sa mère, ça vient de sa mère. D'accord. Donc la mère, elle ressemble à un mouton, c'est Rahamim. Elle dit, non, je t'en prie, laisse-le, je t'en prie, je t'en prie. Le père ressemble à Caïn. Si on fait que de la Rahamim, le gosse il est foutu. Si on fait que de la miséricorde, il va te faire des misères et tu vas finir avec une corde. Ouais. Si tu fais que la rigueur, il va être compliqué, il va quitter, il va trouver de la tendresse chimique. Il faut que tu trouves un équilibre perpétuel entre la rigueur et la miséricorde. D'accord? Maintenant, la femme, elle amène la miséricorde. Le père, il amène la rigueur. Oui. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un homme, il doit épouser une femme? Alors, lui, il y a beaucoup de tempêtes. Au contraire. Parce que la miséricorde. Pourquoi l'homme il épouse une femme et la femme un homme? Ouais. Bah parce que la miséricorde de la femme, elle va atténuer la rigueur du père, et la rigueur du père, elle va structurer la miséricorde de la mère. Donc l'enfant il va recevoir les deux éclairages en même temps. Mais pour qu'un père il atténue sa rigueur, il faut qu'il crée un espace à sa femme en lui. Donc il faut qu'il crée un makom pour que le rahamim de sa femme, il soit mitkayem chez lui. Et pour qu'une femme, elle puisse structurer sa miséricorde, il faut qu'elle ait assez de respect pour son mari, pour créer un espace en elle, ouais, pour qu'elle comprenne que des fois, il faut qu'elle maîtrise sa miséricorde. Sinon, le gosse, il va devenir un chavalot. D'accord? Donc les couples qui ne se respectent pas auront automatiquement des problèmes d'éducation. On a dit que le respect, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre. Donc quand on se respecte, on donne à chacun le pouvoir d'exister. Maintenant, l'homme, il a besoin des qualités de la femme. Et la femme, elle a besoin des qualités du mari. Donc les deux, quand ils se mélangent, l'enfant, il reçoit un seul enfant. Donc ça crée le makom dans lequel l'enfant va grandir. C'est ça le foyer. Le foyer, c'est pas l'espace géographique. On s'en fiche que tu vis dans un deux pièces ou dans un 600 mètres carrés. Est-ce que cet espace, il est rempli d'amour, de pédagogie, de vérité, et de confiance, de tendresse, ou est-ce qu'il est rempli du contraire? Le jour, quelqu'un est venu chez moi, il m'a dit, oui, moi, vous comprenez, ma femme, elle est, je ne sais pas ce qu'elle a, elle veut de la tendresse, elle veut tout le temps des bisous, elle veut tout le temps que je lui dise ce que je l'aime, mais je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas, moi, je ne comprends pas. Est-ce que le rave de trucs, et le rave de trucs, et le rave... Je lui dis, attends. Je lui dis, excuse-moi. Toi, t'as vu la tendresse de tes parents, non? Il n'a pas vu la tendresse de ses parents. Ouais. Jamais il les a vus. Il n'a pas senti les regards, il n'a pas senti la chaleur, il n'a pas senti.
dont il a confiance, il a pas senti qu'il se tienne la main. Il a jamais lu.
Alors il sait pas. Bon.
Ah non, il s'est inventé que dans la Torah. Oui ou non? Mais l'enfant, il a pas vu. Donc tu sais qu'est-ce qu'il va transmettre à ses enfants?
Il l'a pas vu.
Il sait même pas comment ça marche. Il comprend pas. Une fois, une femme est venue chez moi, elle m'a dit, mais Marie, il dit jamais merci. Je dis, ben des fois, hein, ça fait partie de la bonté d'apprendre à quelqu'un à dire merci. Il faut lui apprendre à dire merci, c'est pas. Une femme, elle reconnaît pas la valeur de ce que tu lui donnes. Elle trouve que c'est normal, c'est indu. Il faut que tu lui expliques qu'est-ce qui est dû, qu'est-ce qui n'est pas dû, parce que sinon, elle ne pourra jamais t'apprécier, parce qu'elle croit que c'est dû. C'est comme si elle a commencé à parler avec la machine à sous. Bonsoir, comment ça va? Non, elle met son code et elle prend l'argent. Donc si tu lui donnes une machine à sous pour ta femme, tu ne donnes pas qu'elle te dit pas bonjour. Est-ce qu'on parle avec une machine à sous? Et cette dimension-là, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est l'espace. Donc si quelqu'un réfléchit bien maintenant, de la même manière que dans une maison, voilà, il y a des murs, il y a de l'habillage, il y a des meubles, il y a une coordination, il y a des couleurs, ouais. Et bien toi, tu traduis tout ça dans l'espace psychologique qui est nécessaire pour que l'enfant soit toi. Il faut de la chaleur, il faut de la structure, il faut de la fluidité, il faut de la logique. Des fois, tu vois des maisons, elles sont faites n'importe comment, les gens ils ont bricolé, ils ont. Il faut aller. Genre, il faut passer par les toilettes pour aller à la chambre à coucher, tu dis. On prend un architecte, les choses elles sont très très bien conçues. Ouais, on profite de la lumière. Et bien, l'architecture mentale de l'enfant. D'accord? Est-ce que tu as conçu ton intérieur selon un architecte d'intérieur? Est-ce que ta maison, c'est-à-dire. Ton foyer psychologique dans lequel l'enfant grandit, est-ce qu'il a été conçu avec harmonie? Il faut prendre ce temps-là. C'est ça l'espace. Il faut prendre ce temps-là pour donner. Ça veut dire que maintenant, tu as compris qu'il n'y a plus maintenant de différence entre l'espace que tu crées pour l'enfant et le temps que tu octroies à l'enfant. C'est plus. Ça s'appelle un espace temporel. Il n'y a pas de limite. C'est pour ça qu'il dit le Maharal de Prague, Varim asirlim enam itachatazman, les choses de l'esprit ne sont pas soumises au temps. Celui qui n'a pas la possibilité physique de passer beaucoup de temps, il peut remplacer par beaucoup d'intensité. Mais il faut le sentir. Il faut sentir quand tu donnes de l'intensité. Facilement. Quand tu parles, ouais. C'est quand tu parles pour parler ou tu parles pour faire passer quelque chose. Tu es bien concentré, j'ai coupé le téléphone, j'ai coupé le truc, je me suis avec toi, maintenant je vais te dire quelque chose, maintenant qui me tient à cœur. Alors ça s'appelle que tu as mis une dimension intense à ça. On a passé un moment tous les deux, c'était intense. Je voulais vraiment, j'ai étudié avec toi, pas pour réviser comme ça, j'ai envie de passer un kiff avec toi, je veux faire un bout de paracha, je veux faire un bout de gmara ou un bout de. Ou j'ai envie de parler sur un sujet avec toi, j'ai envie de réfléchir avec toi. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait en fin de compte, j'ai mis de la valeur à ça. Ouais, j'ai donné une consistance. Ça, on sait quand les choses elles sont légères ou elles sont pleines. On le sent. On a passé un bon Shabbat. Ouais, comme tu sais, tu dis j'ai bien prié. D'accord. On a passé une soirée. Les couples, ils disent. Je dis, mais est-ce que vous allez au restaurant? Oui, on va au restaurant. Je vous parlais que quand vous êtes au restaurant, chacun il regarde la table d'à côté. Tu vois pourquoi ils vont au restaurant? Je dis, mais vous parlez pas, vous deux. On n'a rien à se dire. C'est très grave. T'as rien à dire. Alors, je vous rappelle que dans la communication, il y a trois niveaux. Niveau 1, c'est bonjour, 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 c'est un truc naturel. C'est quand tu vois quelqu'un, tu dis bonjour, elle dit bonjour, contact, bonjour. Deuxième niveau, c'est quoi? Échange, comment ça a été la journée, qu'est-ce que t'as fait? On s'en fiche, t'as fait des courses, t'as gagné de l'argent, t'as gagné un pays. C'est pas grave, on s'en fiche, c'est. C'est la deuxième niveau de communication, c'est pour prendre la température, comment elle est la personne. C'est quand tu l'écoutes parler, tu ressens, l'autre, tu sens que, ouais, que tu, oh ben aujourd'hui, j'ai accompagné les enfants à l'école, j'ai préparé le Shabbat et. Le Shabbat, t'es heureuse? Oui, je suis. Ça permet de prendre la température. Donc, numéro 1, contact. Numéro 2, température. Numéro 3, relation intime, c'est-à-dire. Je vais vraiment dire ce que je ressens, je vais te faire passer un message, je vais dire combien je t'aime, tu es le père de mes enfants, je suis tellement content d'être avec toi. C'est le troisième niveau. Mais 1, 2, 3. On ne peut pas commencer directement par le troisième niveau. Si tu vas, tu vas voir ta femme et tu passes comme ça directement au troisième niveau, elle te dit, toi, tu as une idée derrière la tête. Oui, c'est normal. Ben, l'enfant, c'est pareil. Si l'enfant, tu ne parles jamais, les gens comme ça, ils ne parlent jamais. Les gens, tu vois, ils ne disent pas bonjour, ils s'embrassent. Tu vois, les parents, les enfants, ils s'embrassent pas. Moi, depuis qu'ils sont petits, les enfants, je dis la première fois que vous voyez votre père et votre mère, vous faites une première chose. Prenez avant. La seule limite, c'est d'y aller derrière tout. Le matin. Tu rentres, bonjour. Fais un bisou. C'est comme ça. Peut-être que moi, j'ai souffert quand j'étais petit qu'on ne s'embrassait pas. Alors, je dis, moi, c'est comme ça. Il faut que tout le monde doit dire bonjour. Bonjour, bonjour. C'est comme ça, tu viens, tu embrasses. Si on embrasse, contact. Ouais. Après, comment t'as été? Qu'est-ce qui s'est passé? En réel, comment t'as été la journée? Comment t'as été? Prends la température. Tu vois? Ouais. Et après, si on veut parler de choses plus sérieuses, bon, viens, mon fils, il faut que je te parle. Et on va balader. C'est le troisième niveau. Mais toujours les trois niveaux. Sinon, qu'est-ce qu'il entend maintenant? Tu lui parles jamais, après tu viens, tu dis, écoute, ça va pas du tout, je suis pas content. Bon, lui, qu'est-ce que c'est son père? Il reproche. Qu'est-ce que c'est sa mère? Des nerfs. Qu'est-ce que c'est sa père? La mère? Répète. Pourquoi t'as pas appelé tonton Julie? Pourquoi t'as pas appelé tonton? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? Pourquoi tu m'appelles jamais? Tu veux que je te dise la vérité? Chaque fois que je t'appelle, tu me saoules. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Pourquoi? Parce que communiquer, c'est commun. Et commun, c'est comme un. Donc on vient, on coupe pas le contact. Pourquoi? Parce que cet espace commun, ouais, l'espace commun qui existe entre nous, on le maintient toujours. Comme dans le couple, on ne coupe jamais le dialogue, jamais. Tu me dis, j'ai pas envie de parler. D'accord, alors on va faire quand est-ce qu'on va parler? C'est pas envie. Eh ben voilà, on va suivre. C'est quoi qu'on parle? Non, jamais, on ne se parle pas. Ouais, on parle toujours. Si on n'arrive pas à parler, on s'écrit. Bon, on ne coupe jamais le contact. Avec l'enfant, c'est pareil, on ne coupe jamais le contact. Je vais te parler. Ah, mais je suis une amie, ça va, mon fils, je vais te faire on va parler. Trois par jour, on parlera demain. Pourquoi? C'est pour ça qu'on dit, c'est pas la distance qui crée la distance. Des fois, vous rentrez à l'aéroport de New York, vous rencontrez une copine à vous, que vous avez quitté à l'époque, à Beyrouth, ouais. En 5 minutes, vous reprenez contact, vous parlez, ah, qui se prend comme vous, on dirait qu'il a quitté l'année. C'est bizarre, hein. C'est pas la distance qui crée la distance. Pourtant, ça fait 22 ans que tu l'as pas vu. Il y a des gens qui les voient tous les jours depuis 22 ans, tu dis juste que je parle. Ah. C'est pas la distance qui fait la distance. C'est-à-dire que quand on a créé un espace, ce qu'on appelle d'intensité existentielle, il disparaît jamais. Tu peux revenir dans l'espace comme si c'était rien passé. Mais si tu ne crées pas cet espace, et qu'après tu rentres chez l'autre pour lui dire « Maintenant je vais te parler », c'est comme un viol. Attends, excuse-moi. T'as ta vie, j'ai ma vie. Ah mais je suis ton père ! Et depuis quand ? Comprenez ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le macom, maintenant on l'a compris, il se déplace avec toi. Il se déplace avec le temps, il se déplace avec les événements, il se déplace avec la vie. En fin de compte, c'est un lien transparent qui se crée entre les gens. Donc la place que tu lui as donnée, elle est avec toi, pendant, avant, après, même après la mort, ça continue. C'est fini. Ouais. Jamais tu vas oublier ton père, jamais tu vas oublier ta mère. Ils sont là. Ils sont encore là-bas, ils sont là. Tu les portes en toi. Ça, c'est quand tu as créé le lien. Si tu n'as pas créé le lien, il n'y en a pas. Tu sais, c'est la vie. Hein. Mais t'es âgé quand même. Hein. T'es âgé, t'es vieille. Quelque part, t'es bien que... Et tu parles de ton chien. Tu ne pourras jamais remplir la blessure de la perte. Ouais. Mais tu viens avec. Ah, mais alors comment tu vas compenser? Tu vas dire, ben, quand j'étais pas toujours prêt. Non, par contre, j'étais quand même prêt. Et bien là aussi, t'es un peu plus loin, mais toujours prêt. Parce que du moment où tu as créé ce macor, tu l'as créé. Comprenez-vous ? Ben c'est pareil. En réalité, on t'a donné. Maintenant, le problème, c'est que tu ne sais pas combien de temps, combien de temps tu as avec cet enfant. Tu as 10 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans. Tu... Oh, si Dieu veut, il y a toute la vie, c'est pareil. En réalité, c'est pareil. Un jour, il va se marier, tu auras moins de place dans ta vie. Tu vois. Il va être dans les études, tu auras moins de place. Il va être avec sa copine, tu auras moins de place. Il va être avec ses. Tu auras moins de place. Il va être avec ses nerfs, tu auras moins de place. Il sera avec le fric, tu auras moins de place. Donc en fin de compte, combien, si on enlève toutes les choses qui le déstabilisent dans ta relation avec toi, combien il te reste de temps pour créer cette relation? Pas beaucoup. Bah oui, parce que quand il est petit, il ne sait pas que tu existes. Et quand il se rend compte qu'il existe, il ne voit plus que tu existes. Donc le temps il est court. En vérité le temps il est court. Tu veux ou non? Si tu regardes bien en temps réel, ouais.
Un jour tu vas l'attraper, tu dis plus qu'on puisse pas imaginer. Viens enfin. Je voudrais avoir un autre rapport avec toi. Je ne veux pas qu'à chaque fois que tu m'appelles, c'est pour me demander 100 euros. Peut-être qu'on peut, on peut parler d'autre chose. Non, mais maman, tu m'as parlé que de l'école, moi je t'ai parlé que de l'argent. Sinon, on développe autre chose. C'est comme si toi, tu as le même fournisseur depuis 20 ans. Un jour, tu sais quoi? Viens me faire un resto. Je dis, mais tu crois? Non, on va pas travailler. Je voudrais te connaître au niveau humain. Des gens comme ça. Une fois, j'avais rencontré un monsieur, là, il n'était pas du. Il m'a dit, moi, je peux pas travailler avec quelqu'un que je connais pas. Je sais, je rencontre, on fait des choses ensemble. Je suis bien, on travaille. Tu dis, mais c'est une machine, non, c'est pas une machine, c'est une personne. Ça, c'est logique, ça. Eh bien, ton fils n'est pas un fournisseur. T'as pas été un fournisseur, qu'est-ce que tu fournis? Tu me fournis des satisfactions. L'autre, il fournit des machines, l'autre, il fournit des matériaux, et l'enfant, il fournit des satisfactions. Donc, quand c'est pas un bon fournisseur, on prend un autre fournisseur. Alors, on fournit dans le travail des satisfactions. L'autre, il fournit de sa femme, l'autre, la secrétaire, chacun, il trouve un fournisseur. Ton fils n'est pas un fournisseur. Tu sais pas comment il faut faire? Alors, c'est un truc bizarre. C'est que toi, tu attends tout de lui, ouais, mais en fait, ouais, tu n'exiges rien. Je sais pas si vous me suivez. Tu attends tout, mais tu n'exiges rien. Tu peux susciter beaucoup, mais tu n'as rien à poser. Pourquoi? Parce que l'essentiel, on ne peut jamais l'exiger. Par exemple, tu peux tout faire pour que ta femme t'aime, mais tu ne peux jamais lui exiger qu'elle t'aime. Elle ne t'exige pas. Non, mais écoute, hein, t'es marié, d'accord? Je t'aime pas. Ouais. Tu peux susciter chez l'enfant le besoin d'être intelligent, mais tu ne peux pas l'obliger à être intelligent. Tu peux susciter chez l'enfant le besoin d'être autonome, mais tu ne peux pas le rendre autonome. À partir de maintenant, tu es autonome. Je ne suis pas autonome. Mais tu serais autonome. Ça, je vois. Tu vas créer un petit humain pour qu'il devienne autonome. Ça s'appelle le primo. Mais tu ne peux pas utiliser de lui. Sinon, parce qu'on va, t'as 25 ans. Il a un réglage. Regarde cet arbre. Il a 100 ans, il ne marche pas. C'est un arbre. Il est planté dans ses racines. Combien d'autres? Eh bien, l'essentiel, on ne peut jamais l'exiger. Par contre, on peut susciter ce qui va le faire apparaître. Qu'on peut faire. Donc, la vie c'est une proposition. Et bien c'est pareil. Tout ce qu'on a développé maintenant, pendant presque une heure, peut-être et demie, ouais, ça, tout ça c'est une proposition. C'est une proposition. Elle doit être parfaite, elle doit être équilibrée, elle doit être construite, elle doit être spirituelle, elle doit être émotionnelle, elle doit être psychologique, elle doit être intellectuelle, mais ça reste une proposition. Maintenant, si tu crois, toi, que la perfection de ta proposition impose à l'autre la réussite. On peut avoir des parents extraordinaires et être un pauvre type clinique. Parce que c'est une proposition. Tu te proposes de prendre. Tu disposes de cet espace de maturité. Alors il y a quelqu'un qui va profiter de l'occasion qu'on lui a donnée pour devenir nul, et il y en a un autre qui va profiter de ça pour devenir nul. Pourquoi? Parce que le maximum que tu pourras faire, ça ne sera jamais plus que 50%. Ça va? La preuve, c'est quoi? C'est le bon Dieu. Le bon Dieu, il pourrait être le plus grand manipulateur du monde. Ouais? Et pourtant, quel que soit ton niveau d'évolution, il te laisse vivre. Tu veux faire le pire derrière les rocs, tu t'es fait. Tu veux faire le meilleur niveau, tu t'es fait. D'accord? Pourquoi? Parce que la maturité, c'est toujours le résultat d'un choix. Si moi, je vais tellement bien éduquer qu'il n'aura pas le choix. Donc, il va vivre dans la pression. Il va rechercher des groupes où il se sent encadré. Et de choix, il passe à leur choix. C'est leur choix. Mais de lui. D'accord? Mais toi, tu veux quoi? Tu veux le choix. Parce que le choix, c'est l'outil de la maturité. Mais le choix, c'est le risque. Donc si toi, tu as peur de prendre le risque, c'est qu'en fait, tu n'as pas de confiance. Alors. Mais c'est difficile d'avoir la confiance, parce qu'on a peur.
Donc tu confonds la conscience et le souci. Oui, d'accord, mais si ça marche pas. Et toi tu marches, toi, t'as pas l'air retomber. Non. Oui, d'accord, mais on sait jamais. Donc si tu penses que pour toi on sait jamais, si elle confond, t'as pas confiance en toi. Ça commence. Et hop, on refait le cours depuis le début. Et si on fait le contraire, on dit j'ai compris maintenant. Le macom, l'espace que je crée à l'enfant, vous voyez, ce sera toujours un miroir entre mon intérieur et son intérieur. Entre ce que j'ai construit chez moi et ce que je prétends construire chez lui. Entre l'espace que je lui donne et l'espace qu'il a. Entre mon écoute et sa parole. Entre ma parole et son écoute. Tous ces allers-retours-là, entre son intériorité et son extériorité. Alors c'est ça qui va créer cet espace. Maintenant moi, encore une fois, je ne peux pas le faire tant que je n'ai pas accepté que cet espace il doit être nécessaire. C'est pour ça que le mot makom en hébreu qui est un des noms de Dieu, ouais, si vous faites le calcul, c'est combien la valeur numérique, makom? Mel, c'est 40. Kouf, c'est 100. 140. Zad, c'est combien? 6. 146. Makom, Mel, Kouf, Zad, Mel. 186. C'est 186, d'accord? Makom, c'est 186. Mais on a dit que makom, c'est celui qui rend possible mes kayem, d'accord? Maintenant, Yud Kivavke, c'est quoi Yud Kivavke? Le Yud, le He, le Vav et le He. C'est quoi Yud Kivavke? C'est Ove. Ove, c'est Me'ave. Maintenant, c'est celui qui fait être. Maintenant, le Yud, quand tu veux multiplier par lui-même, ça fait 10. Le Vav par lui-même, ça fait 25. Il y a 2 fois 25, ça fait 150. Et plus, et le Yud Kivavke. Et le Vav par lui-même, 6 fois 6, 36. 150 plus 36, 146. Donc le Yud Kivavke multiplié par lui-même, ça donne le Makom. Ça va? Donc Hachem, c'est celui qui fait être celui qui rend possible. Puisque Makom, c'est Mekayem. Et Yud Kivavke, c'est faire être. Donc en toi, il y a celui qui fait être, parce que l'homme, il n'est pas l'image de Dieu. Et il y a celui qui rend possible. Celui qui rend possible, c'est celui qui crée l'espace d'épanouissement de l'enfant. Ouais. Mais il n'est que la démultiplication de celui en toi qui fait être. Donc il faut que ton ambition d'être à toi, qui te fait être, elle passe, elle crée l'espace pour que l'enfant puisse. C'est pas le même. Voilà. Donc si déjà tu n'as pas réglé le problème chez toi de la Havaya, de l'existence, alors tu ne pourras pas la régler chez toi. C'est pour ça qu'en général, les gens qui s'énervent d'impatience sur la lenteur d'existence de l'autre, c'est qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes la démarche. Parce que celui qui a fait la démarche d'exister, il sait que c'est difficile. Donc celui qui s'énerve parce que l'autre il va trop lentement, c'est parce qu'en fait, lui-même, il a trouvé un raccourci, puisqu'il fait semblant. Ça va? Alors que le contraire, celui qui a fait le travail, il sait que ça prend du temps. Donc donner 20 ans à un enfant, c'est normal. Donc quand tu t'énerves au bout de 2 ans, c'est qu'en fait, toi déjà à 12 ans, tu avais trouvé le truc, c'est de faire semblant. J'ai 2 minutes de retard. Donc je m'excuse. Mais comme on avait commencé 2 minutes en avance, en retard aussi. Donc je voulais juste profiter de votre présence pour, comme tous les cours de cette année, les désigner les Nishma de mon père Abraham Shimon Ben Simcha.
Amen.
Kachem et Lassan Shama Parim et Lassan Kimisraël. Et aussi pour
Sion Armando Ben Elisa.
Sion Armando Ben Elisa. Et il faut dire Amen.
Et après Yosef Ben
Julia. Yosef Ben Julia. Ben Julia.
Amen.
Amen.
Haïm ben Shalom.
Et Nouri ben?
Nouri
al Azi Akohen ben?
Rachel.
Ben Rachel.
Amen.
Yosef Haïm ben?
Miriam.
Amen. Haïm ben Shalom.
Haïm ben Sarah.
Amen.
Eliyahu ben Shimon.
Amen.
David ben Aaron.
Amen. Kachem et Lenor Misham parmi tout le peuple d'Israël. Et on va demander aussi que le cours soit dédié pour la réfouche et les mains de tous les malades d'Israël. Et en particulier pour Simcha Batrecha, Esther Batrecha, Hannah Bat Aziza, Evin Aziza Bat Simcha, Nathalie Kamra Bat Saada, Gabriel Eliezer Ben Evin Aziza, Yitzhak Ben Aisha,
Yudit
Bat Clara, Rav Yosef Chaim Ben Simcha Sifruk, Rav Azimov, Rav Eliashiv, Rav Mordechai Yahou, Karen Bat Marcel, Esther Bat Mazatov,
Elisa Batterina.
Vous dire amen, hein?
Rina Batterina.
Rina Batterina. Les malades.
Mazal Tov
Batester. Alors qu'Hachem leur envoie à tous une réponse chez les mains. Maintenant, est-ce que la formule 8h30-10h vous plaît bien?
Oui.
Est-ce que le thème de l'éducation vous intéresse?
Oui.
Est-ce que vous pouvez vous engager en levant la main et en crachant par terre? Allez, là, à la prochaine date. C'est quoi la prochaine date?
Le 23 novembre, pas de soucis, pas de souffrance.
Oula, c'est un sujet, même moi j'ai pas assisté donc. Donc le 23 novembre, vous êtes à chaîne, merci à vous. Mais venez parce que ça encourage les autres personnes à venir et ça développe le cours.
Oui.
Oui. Oui.